Bonjour Patrice, bonjour à tous. La coordination rurale des Deux-Sèvres durcit le ton et dénonce son exclusion des discussions avec l'État. Le syndicat réclame des mesures fortes face à la crise agricole et annonce de nouvelles mobilisations avant les annonces du gouvernement le 27 août. Plus de terrains synthétiques, c'est ce que demande le district de football des Deux-Sèvres après la décision de reporter de 2 semaines le début de la saison départementale suite à la sécheresse. Sur les terrains, justement, les clubs se préparent en match amical. Le FC Cerisay s'est largement incliné hier face à Pouzauges. Vous entendrez l'analyse des deux équipes dans ce journal. Et puis la météo, retour à des températures plus agréables sur les Deux-Sèvres avec 24 à 25 degrés attendus cet après-midi. La coordination rurale hausse le ton et cible un radar automatique. La colère gronde dans les rangs du syndicat des Deux-Sèvres. Le radar situé à la sortie de Cerisay en direction de la Petite Boissière a été entouré d'un bac acier et sur l'installation un message sans équivoque. On passera à l'action, signé CR79. La coordination rurale souhaite dénoncer son exclusion des discussions menées avec les services de l'État et certaines institutions agricoles, comme l'explique David Bosch, secrétaire général de la coordination rurale des Deux-Sèvres et agriculteur à Cirières.
Clairement, aujourd'hui, la coordination rurale et même la Confédération paysanne ont un peu été exclues des demandes qui ont été faites au préfet. On va se mobiliser pour montrer qu'on existe, qu'on n'est pas encore mort, qu'on ne mourra pas en silence. La coordination rurale, je rappelle qu'elle a quand même fait 40% aux dernières élections Chambre d'agriculture, c'est pas rien. Si on ajoute à ça le score de la Confédération paysanne, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 60% des agriculteurs qui ont été exclus des demandes, et ça, c'est pas acceptable. On sait très bien que ces propositions elles vont rester sans suite, parce que tout était déjà prévu d'avance, tout avait déjà été organisé d'avance. C'est fortement anormal, surtout quand on a une Chambre d'agriculture qui avait promis, lors de l'élection de son président, qu'elle serait à l'écoute de tous les agriculteurs, qu'elle serait là pour tous les agriculteurs. Et on se rend compte que dans les faits, c'est pas le cas.
Parmi les mesures défendues par la coordination rurale figure notamment l'accélération du versement des indemnisations liées aux pertes de récolte. Le syndicat souhaite plus que ce qu'il appelle un pansement sur une jambe de bois.
Nous, on avait demandé, par exemple, pour les agriculteurs qui sont assurés pour les pertes de récolte, à ce que les indemnités soient versées très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il y a bon nombre d'éleveurs qui essayent d'acheter du maïs sur pied pour pallier au manque de stock. Si le versement des indemnités perte de récolte avait lieu très rapidement, ben, ça en aiderait plus d'un pour permettre d'acheter des fourrages. On parle beaucoup de la sécheresse. Alors c'est vrai qu'elle impacte beaucoup les exploitations, mais c'est pas la sécheresse qui a mis à genoux quasiment l'ensemble des exploitations agricoles de notre département et même de notre pays. C'est bien la politique qui est menée depuis maintenant 40 ans qui fait qu'il y a bon nombre d'exploitations qui sont à genoux aujourd'hui.
Le syndicat entend désormais accentuer la pression avant les prochaines annonces gouvernementales avec des actions dans tout le département. Les regards sont désormais tournés vers le 27 août, date à laquelle la ministre de l'Agriculture doit réunir les préfets pour présenter les grandes lignes d'un plan destiné à soutenir le monde agricole. Et selon la MSA, les éleveurs n'auraient récolté que 25 à 30% du fourrage habituel, tandis que certains céréaliers risquent de ne rien avoir à vendre cette année. Pour les aider, la MSA propose des reports de cotisations, des aides au remplacement sur les exploitations et un accompagnement psychologique face au stress et à la fatigue. Dans les Deux-Sèvres, le déficit de pluie dépasse 16% depuis le début de l'année selon Météo France. La situation est particulièrement marquée à Ménigoute et à Niort, où les précipitations sont en baisse de respectivement 32 et 29% par rapport au normal. Plusieurs secteurs ont également connu de longues périodes sans pluie et jusqu'à 20 jours dans le Toircet. Nouveau revers pour la bassine de Sainte-Soline. Le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable à la demande de dérogation concernant les espèces protégées, notamment l'outarde de Canepetière. Malgré cet avis qui n'est que consultatif, l'État peut encore autoriser la remise en service de la réserve. Le ministère de la Transition écologique doit trancher dans les prochaines semaines avec une décision attendue à l'automne. Les circonstances de l'accident mortel qui a coûté la vie au producteur de cinéma Nicolas Altmeyer et à sa compagne Mathilde Favier lundi à Hervaux se précise. Selon le parquet de Niort, le poids lourd impliqué aurait franchi la ligne continue avant de percuter la voiture. Le couple est mort sur le coup. Le chauffeur routier testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants conteste cette version. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Nous l'évoquions hier sur Colline, le coup d'envoi de la saison départementale de foot n'aura donc pas lieu début septembre dans le département face à la sécheresse historique de cette été. Le district a donc décidé de reporter de 2 semaines l'ensemble des compétitions. Une décision exceptionnelle, conséquence directe de terrains en herbe brûlés par la chaleur et devenus impraticables. Mais derrière cette mesure d'urgence se cache un problème plus profond, le manque de terrains synthétiques dans le département. Aujourd'hui, les Deux-Sèvres ne disposent que d'une dizaine de terrains de ce type sur la centaine utilisée, 10% seulement, un chiffre jugé largement insuffisant par le président du district, Alain Rouget.
On a envoyé un courrier d'ailleurs par l'association des maires du département qui eux aussi nous sollicitent pour l'avenir. Nous, on a une influence sur les calendriers, sur l'organisation des championnats avec le nombre de poules et le nombre d'équipes par poule. Mais il y a un facteur sur lequel on ne peut pas intervenir, ce sont les infrastructures. Et les infrastructures, ça relève du domaine des collectivités locales et des mairies. C'est en ce sens que nous avons adressé un courrier pour travailler avec eux pour l'avenir. Mon collègue de Vienne a écrit un courrier à la Fédé. Il dit peut-être qu'on devrait faire un plan national d'équipement en terrain synthétique. C'est un grand chantier, ça existait pour les piscines dans les années 70, on appelait ça les piscines tournesol. Est-ce que les terrains synthétiques en nombre répondront à cette problématique? Je suis pas sûr que ce soit la seule chose. Je pense qu'il faudra nous aussi qu'on réfléchisse avec les clubs sur l'évolution de nos championnats. Sur en tout cas le calendrier, on va s'y atteler.
Selon Alain Rouget, il faudrait au moins le double de terrains synthétiques pour permettre aux clubs de poursuivre leurs activités malgré les épisodes de sécheresse ou à l'inverse les fortes pluies hivernales. Ces terrains permettraient de mutualiser les rencontres, d'accueillir plusieurs matchs sur un même site et limiter les reports de compétition. Le problème reste évidemment financier. La construction d'un seul terrain synthétique coûte près d'1 million d'euros. C'est pourquoi le district des Deux-Sèvres appelle à un grand plan national d'équipement sportif. Car pour les dirigeants du foot amateur, la question n'est plus de savoir si les saisons seront perturbées, mais comment permettre aux clubs de continuer de jouer. Les clubs, justement, qui jouent leur match de préparation en ce moment. Hier, les Cerisiens se sont inclinés devant Pouzauges 6-1. Pouzauges, équipe de Régional 1 en Pays de la Loire. Cerisais, Régional 2 en Nouvelle-Aquitaine. Un match utile, comme l'explique le coach cerisien Cédric Fuseau.
Les matchs comme celui-ci et celui contre Niort, on a souffert. Ça permet de mettre en avant pas mal de choses et d'avoir de la matière après pour travailler. Et l'utilisation du ballon, la possession chez eux nous a fatigués. Les espaces se sont ouverts naturellement. Les rotations après ont fait qu'on a perdu un petit peu en unité, un peu au milieu. Le bloc était un peu moins compact. Ça met en avant les choses à travailler.
À Pouzauges, l'attaquant et ancien professionnel Gaëtan Charbonnier, évidemment satisfait.
On a mis un petit 15-20 minutes à vraiment bien rentrer dans le match. Après, on a commencé à retrouver des automatismes. On mène 2-0 à la mi-temps. On n'a pas pléthore d'occases en première mi-temps, mais on les a quand même bien épuisés dans le jeu. On les a fait beaucoup courir. Donc voilà. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, ça s'est plus vu physiquement qu'on était un peu plus en avance qu'eux. Et puis on avait eu des automatismes qui sont venus assez vite. Et il nous reste 2 matchs pour bien préparer la reprise du championnat.
Pouzauges, équipe de Régional 1, qui s'est logiquement imposée hier 6-1 face à Cerisais, équipe de Régional 2, l'une en Pays de la Loire, l'autre en Nouvelle-Aquitaine. Un mot d'athlétisme, Hugo Hay ne courra finalement pas en compétition cette saison. Blessé au mollet puis touché au tendon, le Bressuirais de 30 ans met un terme à son année 2026. Malgré cette nouvelle saison blanche, l'athlète du SBAC garde son objectif en tête, revenir au plus haut niveau en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Deux rendez-vous à l'agenda aujourd'hui, des rendez-vous tourisme avec une visite nocturne de Mauléon ce soir. Munis de lanternes, les participants partiront à la découverte de l'histoire de la petite cité de caractère du Moyen-Âge aux guerres de Vendée. Rendez-vous à 20h30 devant l'office de tourisme. Et puis à la chapelle Saint-Laurent, une visite estivale gratuite sera proposée sur le thème des grands changements du bourg au 19e siècle. Vous découvrirez l'histoire économique de la commune, ses anciens commerces et son patrimoine architectural au fil d'un parcours de 2 km. Rendez-vous à 18h, place de l'église, dégustation de produits locaux à la fin de la visite. Pour ces deux animations à Mauléon comme à la chapelle Saint-Laurent, les réservations sont obligatoires auprès de l'office de tourisme du Bocage-Bressuirais.